Nous inaugurons donc aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été une des multiples initiatives du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens. Dicastère, alors vous ne connaissez peut-être pas forcément le nom, mais dicastère c'est aussi l'équivalent d'un ministère au Vatican. Donc ce dicastère a eu comme initiative d'inviter les catholiques à prier pour cette unité des chrétiens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens, il y a aussi le lien avec le judaïsme. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un autre ministère ou dicastère qui est pour le dialogue interreligieux. Et souvent, on fait la différence entre l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. L'œcuménisme, je vous le rappelle, vous le savez parfaitement bien, l'œcuménisme, c'est la relation entre ceux qui s'affirment comme disciples de Jésus. Le dialogue interreligieux, c'est avec les autres religions qui ne se reconnaissent pas en Jésus le Christ. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce que les relations avec le judaïsme est à l'intérieur même de ce dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens et non pas dans celui qui invite au lien avec les autres religions? Alors vous me direz, bon, bien sûr, le lien avec le judaïsme est quelque chose de tout à fait singulier, parce que le Christ est juif, parce que la Vierge Marie est juive, parce que voilà, les apôtres, etc., tout ça c'est sorti du judaïsme, et donc on peut dire, voilà, c'est quelque chose qui, à nous aussi, nous parle. Mais peut-être il y a une raison plus profonde que celle-ci, c'est que dans le judaïsme, il y a quelque chose de très particulier, c'est la peur de tout ce qui peut apparaître comme idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est de mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. L'idolâtrie, c'est de penser qu'il n'y a qu'une seule manière de voir, qu'il n'y a qu'une seule manière d'envisager les choses. L'idolâtrie, typiquement, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, hein, un chemin pour aller vers Dieu, une seule manière pour atteindre les cieux. Et c'est la même pour, dans le domaine laïque, les idéologies, les grandes idéologies mortifères du XXe siècle sont des idolâtries parce que précisément, elles érigeaient leur manière de voir comme la manière de voir. Hein, vous connaissez la devise du nazisme, Ein Reich, ein Volk, ein Führer, un empire, un peuple, un chef, un. Quand l'humain érige le un comme l'absolu, eh bien c'est un bain de sang, sous prétexte d'unité du genre humain, bien sûr. Alors que le judaïsme pointe très fort cette réalité-là. Au contraire, c'est la diversité, c'est l'altérité qui va être le signe de la présence de Dieu sur la terre. Vous le savez, quand il y a deux juifs, il y a au moins quatre opinions différentes, parce que précisément, ils disent, et heureusement, il n'y aurait qu'une seule opinion, là, nous sommes dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et donc, je trouve que le fait de lier le judaïsme avec la prière pour l'unité des chrétiens, ça nous dit, tiens, ça nous donne un logiciel. Le logiciel, c'est de voir l'autre comme autre que moi, est une condition de communion. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être chrétien. Là, pour commencer, il y a quatre évangiles. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être catholique, même. Il n'y a pas une seule manière d'être paroissien de Compiègne. Sinon, ce n'est pas une église, c'est une secte. Donc, je trouve assez prophétique le lien qui est fait entre la promotion pour l'unité des chrétiens et le lien avec le judaïsme dans ce même dicastère, dans ce même ministère, et non pas à part avec le lien avec les autres religions. Parce que c'est vrai que le fait d'accepter que l'autre soit autre que moi, c'est passer du connu à l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort. Les autres disciples de Jésus, protestants, orthodoxes, évangéliques, nous disent, ils affirment Jésus comme Seigneur, mais ils disent autre chose que nous. Et parfois, nous aussi, dans l'Église catholique, il faut prêter attention parce que on a cette tendance à voir les choses de façon monolithique. J'imagine que quand on est élu pape, la première peur qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait un schisme, qu'il y ait une séparation dans l'Église. Il faut que ce soit un. Mais cette réalité-là ne doit pas nous empêcher de dire qu'à l'intérieur même de l'Église, il y a une variété, tout en affirmant son unité. Et là, vous avez déjà une clé qui a à voir avec la Trinité. La Trinité, qu'est-ce que c'est? C'est la différence des personnes divines et la communion, l'unité des personnes divines. Donc, l'unité n'est pas l'uniformité. Et le fait de prier pour l'unité des chrétiens, c'est quelque chose qui doit nous emmener plus loin que notre seule manière de voir, nous emmener plus loin que notre manière de voir même le Seigneur, d'interpréter les Écritures. C'est quelque chose qui doit nous interpeller et voire nous déranger. Voilà, il y a quelque chose de dérangeant de dire, tiens, accepter l'autre, ce qu'on appelle l'altérité, qui est un mot un peu compliqué, l'autre qui est autre que moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est sortir de sa zone de confort. Et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, eh bien, je trouve qu'elle nous permet de méditer sur l'association de l'unité et de la différence. Et que la différence est une des conditions de l'unité, est une condition de la communion. Alors que souvent, on pense l'inverse. On voit la différence comme une menace. Il y pense autrement que moi, il me menace. Pour qu'on soit, ce qui va me rassurer, c'est qu'on pense tous pareil. On est dans l'idolâtrie, on est dans la tour de Babel. Et c'est intéressant que, à propos de la tour de Babel, la tradition juive rapporte la chose suivante. Disons, la tour de Babel n'existe plus, un tiers s'est enfoui dans la terre, un autre tiers a été détruit, a été emporté par le vent, mais le troisième tiers, il est enfoui en chacun de nous-mêmes. Nous avons en nous aussi cette idolâtrie de la tour de Babel, et que nous puissions être attentifs en quoi je suis invité dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je suis invité par la grâce du Saint-Esprit à me laisser interpeller et à sortir au fond de mon cœur qui est en chacun, cette toute-puissance. La toute-puissance, c'est ça, c'est ma manière de voir et la manière de voir. La toute-puissance, c'est le combat spirituel. Prier pour l'unité des chrétiens, c'est évidemment rentrer dans un combat spirituel. Parce que du coup, et parfois ça a été un combat pas que spirituel dans l'histoire de l'Église, l'histoire des liens avec, on se rappelle la Saint-Barthélemy, on se rappelle etc., etc., le politique se mettant dedans aussi, etc. Donc c'était, aujourd'hui en tout cas, les relations entre les chrétiens se sont apaisées grâce à Dieu, mais c'est un combat intérieur. Sortir de la toute-puissance, sortir de cette toute-puissance que Jésus a affrontée au désert, vous vous rappelez, les tentations, les trois tentations, la tentation de dire à ses pierres de se transformer en pain, dit si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre et va la pire des tentations, c'est va au-dessus du pinacle du temple et puis jette-toi d'ici en bas. Et puis il est dit, voilà, les anges te porteront sur leurs mains. Le démon tente le Seigneur avec la parole de Dieu. C'est la plus diabolique des tentations. Tenter le Christ avec la parole de Dieu. Donc on voit bien que c'est intéressant que nous puissions pendant cette semaine peut-être mettre la main sur ce qui justement cette toute puissance, ces trois formes qu'on appelle d'orgueil aussi, mais je préfère le mot toute puissance, en quoi elles ont prise encore en nous, en quoi elles fragilisent nos relations. En quoi elles fragilisent nos relations? En quoi elles, au fond, elles nous divisent? Parce que si on prie pour l'unité des chrétiens, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des divisions. Et les divisions, quand on regarde, si vous faites un peu l'histoire de l'Église, c'était lié toujours aux toute-puissances. Celui qui a raison, c'est ma manière de voir. Par exemple, le lien avec les orthodoxes, au niveau théologique, il y a les sept sacrements, il y a la sainteté, mais en fait, ce n'était pas un problème théologique, c'est qui est le patron? Est-ce que c'est le pape ou est-ce que c'est le patriarche orthodoxe? Voilà, et donc c'était vraiment celui qui voulait avoir raison, celui qui voulait être le chef. Hein, qui est le plus grand? Vous vous rappelez, hein, les apôtres entre eux, oui, on se demandait qui est le plus grand? Et appelons un enfant Jésus, place au milieu de lui, voilà. Si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez pas. Donc, je trouve que c'est intéressant de nous-mêmes nous dire dans les difficultés que nous avons dans les relations, en quoi la volonté de dominer est présente. En quoi la volonté de... au fond, ce manque d'humilité, parce que c'est synonyme hein, de... volonté de dominer et manque d'humilité, en quoi c'est présent et en quoi ça fait reculer le royaume de Dieu. Ça fait reculer le royaume de Dieu. Parce que ce qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est précisément la communion. Dieu est amour, et donc là où il y a l'amour, Dieu est présent. Mais en quoi le fait de vouloir imposer mon point de vue va au contraire être un signe de division, et créer la division et faire que la parole de Dieu ne porte pas autant de fruits, de faire que le royaume de Dieu, au fond, s'éloigne de nous. Et voilà. Donc, je trouve que c'est une belle semaine, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, parce que c'est vraiment un lieu de conversion. Hein, alors le carême approche là, dans quelques semaines, etc. Mais déjà comme une manière, une anticipation de dire, voilà, où est-ce que j'ai à me convertir dans cette volonté de domination, dans volonté d'emprise sur les autres? Où est-ce que ça me touche le plus? Et chacun, d'une manière ou d'une autre, on est touché, d'une manière ou d'une autre. Alors, on va demander au Seigneur, cette grâce particulière, dans cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, d'avoir cette sagesse du judaïsme qui, au contraire, voit la différence, l'altérité, comme au contraire une condition de la présence de Dieu. Et c'est très beau de voir comment, et du coup, il s'écharpe, non, mon interprétation, c'est celle-ci. Moi, c'est mon interprétation. Et ils disent, tant mieux que l'on ait des interprétations différentes de la parole de Dieu. C'est signe que le Seigneur est avec nous. C'est pas intuitif pour nous. Parce qu'on a un autre logiciel. Mais je me dis, apprenons d'autres religions, et singulièrement, apprenons du judaïsme, qui voit justement dans la différence, non pas une menace, mais une condition du royaume de Dieu, ce royaume de Dieu auquel nous aspirons pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.